Radio Okapi.
Province du Haut-Katanga, le centre d'hébergement des enfants en rupture des liens familiaux de Lukuni se trouve dans un état d'abandon. Premier constat, l'intendance où sont gardés les vivres du centre de Lukuni, les salles de cours, la salle de cinéma, le dortoir, le bureau du superviseur et le secrétariat sont délabrés. La MONUSCO salue les avancées enregistrées à Montreux en Suisse lors de la 9e phase des discussions entre le gouvernement congolais et l'FCM23. Elle met en avant des avancées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire tout en exhortant les parties à conclure rapidement ces accords afin de soulager les populations affectées. L'invité de ce journal, c'est le directeur général de la Régie des eaux, David Chirumba, qui donne espoir à la population du Maniema de doubler la production pour permettre à cette population d'avoir accès facile à l'eau potable de la Régie des eaux dans toute la province. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal Parlé du matin. La province du Haut-Katanga, les centres d'hébergement des enfants en rupture des liens familiaux de Lukuni, situé à 25 km de Lubumbashi, se trouve dans un état d'abandon. La ministre provinciale du genre, famille et enfants a visité ce centre ce vendredi pour faire un état des lieux dans une perspective de sa réhabilitation par le gouvernement provincial. Signalons que jadis, les centres de Lukuni hébergeaient une grande partie des jeunes désœuvrés de la ville de Lubumbashi. Les points avec Paulin Munanga.
Premier constat, l'intendance où sont gardés les vivres du centre de Lukuni, les salles de cours, la salle de cinéma, les dortoirs, les bureaux du superviseur et les secrétariats sont délabrés. Ces infrastructures ont été pillées par les anciens pensionnaires qui réclamaient leur insertion dans la société. La borne fontaine ne fournit plus de l'eau. Elle est à l'arrêt à la suite d'une panne technique. Un enfant vivant dans ces centres expose les difficultés. Avec un seul habit, il peut pleuvoir et vous dormez avec ces mêmes habits mouillés. Les poux peuvent vous envahir. Si on peut nous assister avec les habits et les babouches. En outre, nous manquons de l'eau potable. Et puis nous nous ennuyons. Si on installait les courants au centre pour nous permettre de nous distraire. Pour rappel, il y a quelques années, Lukuni présentait une image d'un centre d'hébergement digne pour des enfants en difficulté. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga qui gère ce centre avait lancé à l'époque l'opération Zéro Enfant Sans Abri, une initiative qui avait permis de récupérer des centaines d'enfants en rupture familiale issus des rues de Lubumbashi et qui vivaient dans la précarité. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Pendant ce temps, plus de 7500 personnes fuyant des atrocités des rebelles ZADF dans les territoires de Mambasa, Bande Gaïdo et Nyanya sont arrivés depuis environ une semaine à Bafoussende. Dépourvus de tout, s'est déplacé vite dans des conditions précaires au sein des familles d'accueil. Promiscuité, manque de nourriture et risque de maladie font désormais partie de leur quotidien. Les derniers déplacés ont fait leur entrée dans les territoires vendredi dernier. Sur place, la solidarité de la population locale est mise à rude preuve. Contrairement à d'autres zones, les déplacés ne sont pas regroupés dans des camps, mais partagent le quotidien des habitants. Dans certaines parcelles, on compte plus de 60 personnes, indique Willy Simbié, administrateur du territoire de Bafoussende. Jacques Moukonkole, reportage.
Les derniers déplacés ont fait leur entrée dans le territoire vendredi dernier. Sur place, la solidarité de la population locale est mise à rude épreuve. Contrairement à d'autres zones, les déplacés ne sont pas regroupés dans des camps, mais partagent le quotidien des habitants. Dans certaines parcelles, on compte plus de 60 personnes, indique Willy Simbié, administrateur du territoire de Bafoussende.
En tout cas, l'assistance, c'est ce qui est vraiment prioritaire. Hein? L'assistance alimentaire, les ustensiles de ménage. Ce que je redoute, l'ennemi profite parfois à de telles occasions, il peut y avoir infiltration.
Outre la faim, la peur d'une infiltration rebelle hante les esprits. Face à cette menace, l'autorité territoriale appelle à un renforcement immédiat du dispositif sécuritaire. Pour Willy Simbié, les effectifs actuels sont largement insuffisants pour couvrir l'ensemble du territoire.
À mon staff de sécurité est multiplié la vigilance et aux autorités de renforcer l'armée chez moi pour que en cas de problème, tout tout soit réglé dans un laps. Pour les militaires, c'est quand même bien parce que j'ai tout un bataillon. Ce que je vais demander, c'est de les équiper.
Un appel à l'aide humanitaire et sécuritaire est ainsi lancé pour éviter que le territoire de Bafoua-Sendé ne sombre à son tour dans le chaos. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Au Kasaï-Oriental, la campagne de collecte de fonds destinée à soutenir les femmes vendeuses opérant sur les campus de l'Université officielle de Mbujimayi IOM s'est clôturée ce samedi. Cette activité inscrite dans le cadre du mois dédié aux droits de la femme 2026 a permis à l'IOM de collecter déjà plus de 3 000 $ américains sur les 5 000 attendus. La cérémonie de clôture de cette campagne a été présidée par le gouverneur des provinces dans l'amphithéâtre de l'IOM en présence des bénéficiaires et des autorités académiques. Des explications avec Esther Ndalafina.
Selon le recteur de l'IOM, le professeur Abbé Apollinaire Tshibakati-Kongo, près de 5 000 $ seront distribués dans les prochains jours à une cinquantaine de femmes vendeuses de produits vivriers essentiels, notamment les bananes, beignets, arachides, eaux et boissons sucrées, qui assurent quotidiennement les services aux étudiants et au personnel académique.
L'idée pour nous, c'est dire d'abord merci aux mamans. Qu'on les veuille ou pas, ils font partie de cette université. On voudrait aussi les aider dans la formation à la gestion, à l'hygiène, parce qu'elles nous donnent des choses que nous mangeons, mais surtout appuyer aussi leur petit capital.
Parmi les femmes concernées, Thérèse Nsalanga a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance pour cette initiative qui, selon elle, vient renforcer la capacité économique et sécuriser ses activités sur le campus.
Je remercie M. Tshibaka pour son bon cœur, pour avoir pensé à soutenir toutes les femmes qui vendent des petites choses sur le campus. J'ai une immense joie pour cette initiative.
En 2024, l'université avait organisé une collecte en faveur des femmes de l'Est du pays. En 2025, l'effort avait été orienté vers les femmes de Katanda. Cette année, l'attention est portée sur celles qui, chaque jour, offrent des services essentiels à la vie du campus. Esther Dalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
La MONUSCO salue les avancées enregistrées à Montreux en Suisse lors de la 9e phase des discussions entre le gouvernement congolais et l'FCM23 dans le cadre du processus de Doha. Des progrès jugés encourageants, notamment sur les questions humanitaires et les mesures de confiance. Dans son communiqué publié ce 19 avril, la mission onusienne appelle les partis à maintenir cet élan afin de parvenir rapidement à des résultats concrets sur le terrain et insiste sur la mise en place d'un mécanisme crédible de suivi du cessez-le-feu. Les détails avec Martial Papimukeba.
La MONUSCO met en avant des avancées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire, tout en exhortant les partis à conclure rapidement cet accord en fait de soulager les populations affectées. Elle se félicite également des engagements pris en faveur d'un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave dans le respect du droit international, ainsi que des mesures visant à protéger les civils et les infrastructures essentielles. La mission encourage par ailleurs la poursuite des mesures de confiance, notamment la libération et l'échange des détenus avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge. Autre avancée, la signature d'un mémorandum d'entente avec la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs ouvra la voie à l'opérationnalisation du mécanisme conjoint élargi de vérification du cessez-le-feu. Présente comme observateur, la MONUSCO s'est dit prête à appuyer les premières missions de vérification, mais rappelle que certaines conditions restent indispensables, notamment la fin de l'usage des drones offensifs, du brouillage des signaux GPS, ainsi que la liberté des mouvements de son personnel. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. La coordination provinciale de la société civile tire la sonnette d'alarme sur la situation sécuritaire, humanitaire et socio-économique sur l'ensemble de la province. Dans une déclaration rendue publique vendredi dernier à Moussienene, dans les territoires de Lubero, cette structure citoyenne affirme que plusieurs entités de la province restent confrontées à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, dont les rebelles des ADF et de l'FCM23. Une situation qui, selon elle, affecte les activités économiques, fragilise les circuits d'approvisionnement et accentue la vulnérabilité des milliers de ménages, notamment les personnes déplacées. Pépin Paluku Kavota, son coordonnateur.
Au regard des événements sur terrain, caractérisée par l'activisme des terroristes ADF-MTN, l'agression du pays par l'armée rwandaise sous le label du M23 AFC, les déplacements des populations internes et sans assistance appropriée, l'installation des administrations parallèles, recrutement forcé de jeunes, le musellement, assassinat, meurtre, les menaces contre les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits humains, les enlèvements, remplacement des autorités coutumière par les animateurs rebelles, multiplicité des taxes, occupation forcée de terres, maisons et arrestations arbitraires dans les zones occupées par les rebelles M23 AFC. Les incendies des villages, les massacres silencieux des populations civiles dans certaines entités par les ADF.
Face à cette situation et parmi les différentes recommandations, la société civile du Nord Kivu demande au gouvernement d'accélérer les processus de la réserve armée de la défense RAD. Elle recommande également l'application des résolutions 2773 et 2808 des Nations Unies. Dans un autre chapitre, la ville de Kalemi est en proie à des inondations provoquées par les eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga, surtout en période pluvieuse. D'après la nouvelle dynamique de la société civile Chumvi ya Congo du Tanganyika, cette année l'ampleur des inondations n'est pas comme celle des années antérieures. Cette structure citoyenne note que cette année les dégâts sont de moindre ampleur que ceux enregistrés les années précédentes. Le point avec Paul Munanga.
Cette année, des inondations sont signalées à différents endroits de la ville de Kalemi. C'est notamment au quartier Kamko et Dav. Chirac Issa est le coordonnateur provincial adjoint de la nouvelle dynamique de la société civile Chumvi ya Congo du Tanganyika.
La commune de Kalemi, au sein du quartier Kamko, où au moins 90% de la population était obligée d'abandonner leurs habitations habituelles. Les mêmes situations sont semblables au sein de la commune du lac, dans les quartiers d'Ave, où toutes les maisons qui ont été abandonnées par les gens sont restées vides.
Le boulevard Lumumba, principale artère de la ville de Kalemi, est régulièrement inondé à certains endroits pendant la période pluvieuse. Pour rappel, en 2024, la ville de Kalemi avait connu l'une des graves inondations. La montée des eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga à la faveur des pluies diluviennes avait causé d'importants dégâts matériels et il y a eu plusieurs déplacés. Des habitations riveraines du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga ont été envahies par les eaux et abandonnées par leurs propriétaires. Des écoles ont été délocalisées, des églises, des hôtels, des routes et d'autres infrastructures. Les structures n'ont pas été épargnées. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
En Ituri, les FARDC ont récupéré jeudi dernier vers Jina, dans le territoire de Djougou, un lot d'armes et de munitions attribuées au groupe armé Convention pour la Révolution Populaire CRP. Par ailleurs, un leader de cette milice, également autorité coutumière locale, a été arrêté à Mahagi Port, dans les territoires voisins de Mahagi. Ces opérations ont été rendues possibles grâce à la collaboration de la population qui a dénoncé ces rebelles. Une action saluée par les autorités militaires pour la consolidation de la paix dans cette province. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Selon l'armée, il s'agit de 10 armes de type AK-47 accompagnées de munitions de guerre et de 27 chargeurs. Le porte-parole de l'armée en Ituri précise que cette découverte est le résultat des opérations militaires en cours dans la région visant à traquer les miliciens. Il souligne également les rôles déterminants de la population de plus en plus lassée par la guerre. Par ailleurs, un leader de cette milice, ancien chef de groupement de Djaïba, a été arrêté en début de semaine à Mahagi Port. Il est revenu de l'Ouganda lorsqu'il a été dénoncé par des habitants. L'armée encourage la population à continuer de soutenir ses efforts pour consolider la paix en Ituri. Elle appelle également les miliciens encore actifs impliqués dans des exactions contre les civils à déposer les armes et à rejoindre le processus de paix. Le lieutenant Gilles Ngongo.
Les forces armées, encore une fois de plus, viennent de récupérer ses armes. C'est le fruit d'une parfaite collaboration et la prise de conscience de certains jeunes. C'est un message fort lancé à Thomas Lubanga et tous ses adeptes. Et nous les appelons à déposer les armes et à se rendre aux forces armées.
Signalons que c'est pas pour la première fois que l'armée découvre des caches d'armes appartenant à la milice RP. Certains de ces combattants ont déjà intégré les programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire, les PDDRCS. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Parlons de cette nouvelle de la santé avant d'aller plus loin. Au moins 23 millions d'enfants sont attendus à la campagne de vaccination contre la rougeole, rubéole et la polio prévue du 22 au 26 avril dans les 515 zones de santé de la RDC. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la 16e édition de la Semaine africaine de la vaccination qui vise au moins 23 millions d'enfants âgés de 6 mois à 14 ans. Lors d'un briefing de presse organisé ce vendredi à Kinshasa, le directeur adjoint du programme élargi de vaccination PEV a appelé à l'implication de toute la communauté, notamment des journalistes et des leaders d'opinion, pour assurer la réussite de cette campagne vaccinale. Les propos de Dr Augustin Milabio ont été recueillis par Blaise Ntongala Mayanda.
La rubéole, la rougeole avec la poliomyélite va se dérouler dans 11 provinces. Les 11 provinces qui sont concernées par la rubéole, la rougeole et la poliomyélite sont Congo central, la ville province de Kinshasa, les Kwango, Kwilu, Maindombe, l'Équateur, la Mongala, le Nord et les Sidoubangi. Ainsi que la Tchoko. La campagne polio, c'est jusqu'à 5 ans. Et pour la campagne rougeole et rubéole, c'est jusqu'à 14. En dehors de ces 11 provinces, les autres provinces vont vacciner pendant la campagne de masse seulement avec la polio. 23 millions d'enfants, nombre d'enfants que nous voulons. Et ces enfants sont âgés de 6 mois à 14 ans. Pour que un enfant puisse grandir, l'épargner de tout ce qui est maladie, on a mis en place dans les systèmes de santé la prévention. Et la prévention pour les enfants tourne autour d'abord de la vaccination. Il y a plusieurs stratégies. Les plaidoyers auprès des autorités politico-administratives ou les leaders religieux, communication interpersonnelle, mobilisation sociale. Nous voulons vraiment que vous puissiez nous accompagner dans les processus pour atteindre une grande proportion de nos parents, les gardiens d'enfants.
Actualité internationale.
Le pape Léon XIV a appelé dimanche 19 avril en Angola à guérir le fléau de la corruption lors d'une messe géante avant de se rendre dans le plus grand sanctuaire marial de ces pays lusophones aux fortes inégalités économiques et sociales.
L'invité.
Le directeur général de la Régie des Eaux donne espoir à la population du Maniema de doubler la production pour permettre à cette population d'avoir accès facile à l'eau potable de la Régie des Eaux dans toute la province. David Chilumba, notre invité, s'entretient avec Florence Kizalunga.
David Chilumba, bonjour.
Bonjour.
Dans votre passage dans la province du Maniema, dans le cadre de la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau, qu'est-ce que Maniema peut espérer de vous, étant donné que la desserte en eau potable pose énormément de problèmes dans cette province?
La desserte en eau potable en RDC ne pose pas de problème seulement dans la province du Maniema, mais c'est un problème général de notre société, de notre pays. C'est un témoignage d'une accumulation des retards que nous avons depuis que le pays a accédé à l'indépendance, parce que tout simplement, les infrastructures n'ont pas suivi le niveau de la croissance démographique, donc il nous faut investir conséquemment et il nous faut planifier pour trouver de l'argent et exécuter les projets. Et donc, nous sommes venus ici au Maniema d'abord pour apporter un soutien à la direction régionale dont la production est passée déjà de 1200 mètres cubes jour à 2400. Et nous avons pris l'engagement déjà avant la fin de cette année de doubler encore cette production pour arriver à 5000 mètres cubes jour, ce qui serait déjà près de 5 fois plus que ce que cette production a été avant que nous arrivions à la Régie des Eaux. Et nous avions déjà, au niveau de la direction générale, planifié des études d'augmentation des capacités activités à travers le pays avec le support de nos partenaires au développement. Et donc la ville de Kindu est également inscrite dans ce grand programme. Nous allons commencer des études avec des plans directeurs, avec des études pour les nouvelles usines, y compris pour la ville de Kindu, où nous pensons construire une nouvelle usine de traitement d'eau potable et faire un réseau de distribution pour pas moins de 30 000 mètres cubes par jour, peut-être à l'échelle 2050, cela peut arriver à 50 000 mètres cubes qui seront exécutés en module pour nous rassurer que nous rencontrons la demande progressivement.
Comme vous parlez de mobilisation de ressources et dans les cas de la province d'Imanimo, concrètement, qu'est-ce que la Régie des eaux attend des autorités provinciales?
Moi, je ne veux pas parler au nom de la province d'Imanimo. Je salue d'ailleurs le gouverneur avec beaucoup de respect. Je voudrais dire tout simplement que nous, au niveau de la Régie des eaux, nous faisons ce que nous devons faire parce que notre périmètre opérationnel dans la province du Maniema couvre les grandes villes. Les milieux ruraux, c'est couvert par autre chose. Alors, dans notre périmètre opérationnel, nous travaillons en collaboration avec les autorités locales, les autorités nationales pour trouver les moyens, pour les mobiliser, pour exécuter les projets.
Vous êtes toujours au plan du fait que les gouvernements congolais, qui est les grands partenaires de la Régie des eaux, n'honorent pas les factures de la Régie des eaux. Est-ce que cette question est déjà résolue?
Ah, la question est générale, y compris ici au Maniema, où les entités provinciales, le gouvernement provincial, toutes les entités de l'État ne paient pas leurs factures d'eau. Ça commence par Kinshasa, ça va dans les provinces. C'est un problème de culture. Il nous faut changer de culture parce que si les institutions de l'État ne paient pas, il est difficile que nous puissions toujours continuer à faire le forcing sur la maman qui vend par terre pour nouer les deux bouts de moi. Donc c'est une conversation citoyenne à avoir et nous avons sonné cette alarme depuis que nous sommes à la Régie des eaux depuis 3 ans. Je suis content de dire qu'il y a quand même un petit mouvement, un petit changement de paradigme. Donc je salue les efforts du gouvernement central qui demande d'auditer le fichier des instances officielles et des ayants droit parce que nous allons élaguer d'abord de cette liste tout le monde qui ne mérite pas de recevoir de l'eau gratuitement.
Monsieur David, vous encouragez les enfants, les investisseurs du Maniema, les opérateurs économiques à beaucoup investir dans les secteurs de l'eau.
Mais les Congolais disent qu'ils ont de l'argent, beaucoup d'hommes d'affaires, y compris ici au Maniema, des multimillionnaires partout en RDC. Mais pourquoi les Congolais n'investissent pas dans l'eau? Pourtant, c'est un problème si crucial pour nos communautés. Donc, si vous avez de l'argent, l'État a libéralisé le secteur de l'eau. Venez travailler avec nous. Nous allons vous aider à résoudre les problèmes de vos communautés.
Monsieur le DG, est-ce que vous encouragez la population à utiliser de l'eau de la Régie des eaux? Parce qu'il y a certains jusqu'à aujourd'hui qui ne font pas foi à l'eau de la Régie des eaux.
Donc, partout où je passe, je prends l'eau de la Régie des eaux, je mets dans un verre et je bois pour vous montrer que l'eau de la Régie des eaux, elle est bonne que l'eau de la bouteille, de très loin, parce que nous contrôlons la qualité à tout bout de champ. Tout ce que je demande à la population, c'est de protéger le réseau, parce que si on ne protège pas le réseau, on le casse, on crée des points de faiblesse sur le réseau, et des matières intrus peuvent entrer dans le réseau et commencer ainsi à salir, ou si vous voulez, à détériorer la qualité de l'eau.
Monsieur David Chilumba, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Fin de notre journal Parler du matin. Merci de nous avoir suivis.